Alors ce matin, on est dans la poursuite, hein, de la série sur la réflexion sur les anciens, sur les responsables d'église. On va regarder encore ensemble comment la Bible en parle. Alors pour ceux qui nous rejoignent ce matin, qui nous visitent, on a encouragé l'église depuis quelques semaines à méditer sur ce sujet un peu plus spécifique des responsables, parce qu'on est dans une période un peu d'échéance pour la vie de l'église. Sur des renouvellements de mandat, sur des fins de mandat pour les responsables qui sont en place dans les mois à venir. Alors j'en profite d'ailleurs pour ceux qui ont pas pu être présents mardi soir, on avait un petit rappel un point de situation sur la vie de l'Église et sur ces sujets-là. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu le compte rendu, il y avait un compte rendu dans un des mails de cette semaine. Notamment un point de vue par rapport à ma situation personnelle. Alors pour ceux qui le savent, on a exprimé en tout cas notre désir de poursuivre notre ministère ici à Wittenheim, un désir partagé avec Ruth, de continuer au-delà de septembre de l'année prochaine, hein, 2025. Mais voilà, dans les mois à venir, avec l'Église aussi, voilà, c'est à nous aussi de discerner si cette conviction, si cette décision semble sage. Et adapté aussi pour l'Église. Alors, on a déjà eu dimanche dernier un aperçu sur notamment les qualifications des anciens et des responsables avec Renaud, un visiteur, hein, qui nous avait fait un survol. On a essayé de le suivre, hein, sur un certain nombre de choses et notamment du vocabulaire. Alors, je vais pas vous interroger, hein, sur si vous avez retenu le vocabulaire, le pourcentage des mots, etc. Voilà, on a vu que pour certains c'était des rappels, mais on a vu que cette question autour des responsables et des anciens, la terminologie, les nombreux passages dans l'Écriture sont riches et on a une diversité d'idées. Et donc quelque part aussi une diversité de ce que doit être un responsable d'église incarné. Et on a vu que c'est beaucoup de latitude, de ce qu'on est avant même de faire, ce qu'on est appelé à incarner en tant que responsable. On va poursuivre ce matin, on le fera encore probablement dans un troisième temps, mais le premier dimanche d'avril, sur la question peut-être plus de l'autorité. Mais voilà, ce matin, j'aimerais bien nous synthétiser un peu comme un entonnoir. Dimanche dernier, on a eu un certain nombre d'informations, un espèce de grand panorama. Et ce matin, je vous propose de peut-être de recentrer et de terminer sous forme d'entonnoir pour avoir quelques éléments, quelques clés aussi pour nous aider à discerner. Alors, je suis moi-même, hein, encore dans la réflexion voilà, on chemine toujours avec ces réflexions-là, hein, de ce que c'est un responsable, de la manière dont on doit le vivre, voilà, je suis actuellement beaucoup stimulé par un livre en anglais. Alors, pour ceux qui me connaissent, l'anglais, c'est pas ma langue, ni maternelle, ni fétiche, mais voilà, je fais l'effort d'essayer de comprendre aussi, voilà, ce beau rôle du responsable. Et je réalise que ce sujet, en fait, n'est pas évident. Voilà, on a les éléments, mais il n'est pas évident dans l'application, dans la manière de le mettre en œuvre. Et Renaud nous l'avait dit, on baigne dans une culture où on a du mal à toute la question de l'autorité. On est dans une période où on est défiant envers l'autorité de façon générale, et même dans l'Église. Combien on est parfois éprouvé par une mauvaise gestion, par une mauvaise autorité. Voilà combien parfois on se sent abandonné. Parfois, il y a beaucoup de difficultés dans la relève. Il y a beaucoup d'églises où il y a des anciens parfois vieillissants et qui attendent qu'une jeune génération se lève et ça tarde à venir. Mais ma prière en tant que responsable, ici à Wittenheim, c'est que Christ place au sein de notre église des hommes qu'il a appelés, des hommes qui possèdent les dons spirituels, qui possèdent ce souci pastoral à devenir des bergers pour nos églises. Alors c'est vrai qu'on aspire à une église en bonne santé, à une église qui marche unie, ensemble, une église qui aime Dieu. Vous rappelez, hein, la résolution numéro 3 que j'ai encouragée en début d'année, d'adorer Dieu ensemble. Ben, on peut le faire si on est bien sûr unis ensemble. On doit veiller les uns sur les autres. Bien sûr, il y a les responsables, mais nous sommes appelés chacun à veiller les uns sur les autres, à manifester de l'amour. Ça, c'était la résolution numéro 2. On est appelés à être des disciples les uns les autres, à s'encourager, à porter les fardeaux des uns et des autres. Et une église en bonne santé est appelée à rayonner, à témoigner, à être ouverte, à être accueillante, à témoigner publiquement sa foi. Et ça, c'était la résolution numéro 1. Donc en fait, si on veut parler des anciens, c'est voilà, parce que une église en bonne santé, c'est aussi des responsables qui dirigent de façon saine et soumise à l'autorité de Christ leur église locale. Alors je vous propose de lire ces quatre textes clés qu'on a déjà entendus, il me semble en tout cas, dimanche dernier. Tite 1, versets 5 à 9. Tite 1. Donc c'est Paul qui parle à Tite. « Je te laissais en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants sont croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Il poursuit un peu, « Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis des discoureurs. » Le passage d'Actes, qui est extraordinaire, c'est Paul qui rassemble, si je ne me trompe pas, les anciens d'Éphèse sur la plage, et qui dit ceci au verset 28, je prendrai même au verset 27, mais « Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans en rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant trois ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes parmi vous. » Timothée, toujours Paul, à son fidèle compagnon et disciple, 1 Timothée 3, les 7 premiers versets du chapitre 3, 1 Timothée. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'enflé par l'orgueil, il le tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Et enfin, le dernier texte que je voudrais prendre sous les yeux, c'est 1 Pierre, chapitre 5, les versets 1 à 4. « Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui non pas contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » Voici la parole de Dieu, quelques textes, quelques éléments sur la question du responsable. Je ne sais pas, vous avez sans doute observé, et je sais que plusieurs sont passés aussi par d'autres églises, les modèles de responsables, la manière d'exprimer la direction d'une église, ben il y a Il y a plusieurs modèles. Parfois, on voit le pasteur ancien PDG, c'est un peu le directeur général. On voit des associés qui l'aident. Autrefois, il y avait, quand on lit beaucoup les pasteurs aussi, notamment la réforme, on a l'impression que c'était les pasteurs aumôniers. Il y avait beaucoup de visites, ils étaient au chevet des malades. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on attend d'un ancien, d'un pasteur, un coach de vie qui vous donne des petites leçons, des petites exhortations par-ci, par-là. Et suivant votre arrière-plan personnel, familial, d'église, ben voilà, votre compréhension de ce ministère peut être différent et varié, puisque comme voilà, nous l'avait évoqué Renaud dimanche dernier, il y a une telle diversité dans les termes qui sont employés pour parler de ces responsables, il y a une telle palette de couleurs, de ministères, de fonctions, que voilà, ça montre toute la richesse que Dieu donne à son corps de l'Église. Alors, comme je l'ai évoqué, j'aimerais peut-être quand même parler sous forme d'un entonnoir. Donc du coup, j'aimerais ressortir trois éléments du ministère, des fondements de ce que c'est un ancien. Mais avant, j'aimerais juste évoquer cinq points d'observation préliminaires, hein, pour ceux qui ont la feuille. D'ailleurs, j'ai fait cinq petits tirés là. Je vais être court sur ces aspects-là. Mais on voit que cette responsabilité, on l'a évoqué dimanche dernier, c'est une évidence et je l'ai passé en première, elle prend source dans l'œuvre de Christ, qui est le berger par excellence, qui est le conducteur par excellence, qui est celui qui nous a rachetés, qui est le bon berger, comme on l'a lu dans le texte d'introduction. Voilà, la responsabilité, la manière d'exercer cette œuvre, ce rôle, ce ministère, ben, prend source dans l'œuvre de Christ. Ne l'oublions pas. Deuxième, peut-être observation, ben, c'est au sein de l'Église locale que ces dons peuvent être exercés, peuvent être discernés, qu'on met à part, qu'on désigne. Alors après, le comment on fait entre nous, voilà, c'est toute la richesse aussi, hein, et Renaud nous avait mis quelques pics. Comment vous, vous interprétez ces aspects-là? Mais voilà, c'est au sein de l'Église que nous devons, avec discernement, aussi discerner ceux qui sont appelés à nous conduire. Troisième observation, et que Renaud avait aussi fait, c'est la pluralité des anciens. On l'a vu dans les quelques textes qu'on vient de lire, c'est plusieurs anciens, c'est plusieurs responsables qui prennent soin de cette église locale. C'est pas un seul homme. Voilà, l'église, Renaud nous avait dit, hein, c'est pas parce qu'il y a trois anciens qu'on est église ou qu'il n'y a pas d'anciens qu'on n'est pas église. Non. Mais dans le plan, le projet de Dieu pour conduire les églises locales, et on le voit dans l'exhortation de Paul à ses disciples, à ses compagnons d'œuvre, c'est d'établir des anciens. Donc il y a cette pluralité, la collégialité. Et c'est vraiment un principe qu'on trouve, notamment aussi dans les proverbes. Il est bon d'avoir de nombreux conseillers. Les projets échouent, par exemple, Proverbe 15-22, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Voilà, il y a cette dimension de la collégialité, du nombre, de la direction collégiale est importante. Et enfin, quatrième élément sur les cinq, et je rejoins de ce que je viens déjà de dire, c'est que il y a la diversité. La diversité des ministères. On n'attend pas qu'on ait des copier-coller, que tous les anciens, que tous les responsables se ressemblent. Il y a des dons différents. Et Dieu a donné, et là, rien qu'en prenant les termes, voilà, les différents termes qui sont employés, mais il y a une diversité de manières aussi d'exprimer, de conduire le troupeau. Il y aura des anciens bergers qui vont prendre soin, il y aura des anciens visionnaires, il y aura des anciens qui seront plus dans l'évangélisation, il y aura des anciens qui seront plus voilà, dans l'accompagnement, dans la relation, dans l'accompagnement individuel, etc. Il y aura peut-être des anciens, on va dire aussi, il y a des dons de président, des dons de... voilà. On voit qu'il y a une pluralité, qu'il y a une diversité, et c'est aussi, je crois que c'est bienfaisant, que l'Église aussi puisse discerner des dons qui soient différents pour une conduite collégiale. Cinquième remarque, peut-être un peu plus clivant, mais je vais passer juste dessus. C'est pas l'objet de la réflexion, on pourrait la mener plus loin, mais il nous semble, et c'est un peu la direction que prend aussi, que choisit depuis plusieurs années, c'est que cette responsabilité est confiée à des hommes. Voilà, on le voit dans ces quelques textes. On a une position complémentaire sur ce sujet-là. une position qui s'appuie sur l'ordre créationnel avec une distinction des genres, hommes et femmes, bien sûr, sont égaux devant Dieu, mais ont des fonctions et des rôles qui sont amenés de responsabilités, notamment devant Dieu, qui sont différentes et sont distincts. Alors je sais que c'est un sujet qui peut être émotionnel pour beaucoup, qui est clivant, on le conçoit, mais je crois que c'est de façon apaisée aussi qu'on doit étudier, réfléchir à ces questions-là. Parce que c'est un beau sujet, et je crois que on peut avoir une même position et avoir une expression, parfois, dans la manière de le vivre en église locale, qui peut être différente. Il y a une place extraordinaire pour les ministères des femmes parmi nous. Et je crois que si nos épouses et nos femmes qui étaient présentes et qui portaient bien des domaines de la vie d'église, on serait, voilà, on n'aurait pas de... Il y aurait beaucoup de choses qui ne tourneraient pas. Donc il y a une quantité de ministères que la parole de Dieu nous amène à chacun porter en tant que don. Mais voilà, maintenant j'aimerais qu'on voilà, une fois qu'on a dit ces cinq petits principes d'introduction, j'aimerais m'arrêter sur trois volets, trois aspects du rôle qui est de l'ancien. Et je trouve ces trois rôles, d'ailleurs, qui s'entremêlent. On a parfois du mal à les dissocier comme ça. Alors moi, je le fais parce que ça nous donne aussi l'occasion de bien réfléchir à chacun des thèmes. Mais voilà, je trouvais que dans les différents textes, on voit qu'il y a un ministère. C'est un ministère de la parole. Une personne doit, et on le voit dans Tite, par exemple, doit être un homme attaché à la parole de Dieu, telle qu'elle a été enseignée. On ne dit pas à la Bible ce qu'on a envie qu'elle dise. L'Église est appelée à discerner des hommes qui sont enracinés dans la parole de Dieu, enracinés dans l'Évangile, dans l'œuvre de la grâce. Des responsables doivent se soumettre à cette autorité-là et doivent encourager les croyants à s'y attacher. On voit aussi dans le texte, c'est le terme de réfuter les contradicteurs. Donc ça veut dire capable aussi de discerner les faux enseignements. Dans la lettre de Timothée, on a un peu la même exhortation, capable d'enseigner. Les anciens ont cette tâche de nourrir, d'enseigner la parole de Dieu, de la partager, de la faire comprendre, de la travailler, de la développer. Nos responsables sont encouragés à nourrir l'Église par la parole, et c'est une responsabilité collective des anciens. Donc il y a une certaine nécessité de la connaître et de bien l'appliquer, de la transmettre, de connaître les besoins de l'Église, de surveiller la nourriture. Donc là, on revient à l'image de berger. Un berger connaît ses moutons et sait comment les nourrir, bien les nourrir, à quel pâturage. C'est la responsabilité des responsables d'Église de veiller à ce qui est enseigné, de veiller à ce qui est donné comme nourriture. Que ce soit ici devant, alors c'est pas automatiquement un ancien, mais c'est de veiller aussi à ce qui est partagé ouvertement. Les ouvrages, les livres qu'on recommande, on doit veiller à ce qu'on, les influences. Un ancien est versé et attaché à la parole pour son âme et pour nourrir l'Église. Il a cette responsabilité de transmettre pour qu'elle puisse faire son œuvre dans les cœurs de chacun d'entre nous. Un ancien n'est pas là pour parler juste de soi, mais on devrait discerner des hommes qui ont toute la parole de Dieu à cœur de vouloir la transmettre et la partager et la voir propager du fruit. Alors on l'avait vu, et là je rejoins ce que Renaud avait dit, un ancien n'est pas automatiquement quelqu'un qui devrait être à l'aise dans le partage public. Il y a de la place pour des responsables d'église bien sûr, qui ont un amour pour la parole, mais qui ont peut-être un autre don que celui d'enseigner ou que d'être un enseignant, comme on peut le dire, puisqu'il y a des textes qui démontrent qu'il y a des anciens qui ne sont pas appelés automatiquement à prêcher, et vice-versa, il y a des gens qui seront capables d'enseigner en public et qui ne seront pas spécifiquement des anciens d'église. C'est suivant les dons que Dieu aura donnés. Mais dans tous les cas, et c'est là l'essentiel, un ancien, un responsable d'église aime la parole de Dieu. J'aimerais juste citer hein, une citation d'un livre qui parle des anciens. Un ancien devrait continuellement se placer sous la parole dans son enseignement, son adoration et son ministère. De cette façon, la congrégation, l'Église, et lui-même demeure conscient que son autorité est conditionnelle et que seule la Bible possède une autorité absolue sur la vie de l'Église. On devrait toujours essayer de discerner si on est aligné. Les assemblées devraient élire, choisir des anciens, des responsables qui possèdent la plus haute estime pour la Bible. Je crois que voilà, c'est dit, j'aime beaucoup cette phrase, qui possède la plus belle estime de la parole de Dieu. Qu'on soit des hommes et des femmes enthousiastes pour la parole de Dieu, des hommes qui fondent sur la parole de Dieu. On veut prier la parole, on veut prêcher la parole, on veut conseiller la parole, on veut chanter la parole. Alors quand je dis chanter la parole, pour ceux qui me connaissent un peu mon dada aussi sur la louange, j'aime que les paroles puissent au maximum essayer de rejoindre ce que l'autorité, ce que les vérités nous présentent de la parole de Dieu. Et bien sûr, nous sommes appelés à vivre la parole. Premier point, c'est un ministère de la parole. Mais c'est associé à cela très fort, c'est ce ministère aussi pastoral. Et j'entends par là un ministère dans lequel les anciens manifestent une attention envers l'Église, envers chacun des membres et non-membres de l'Église. On prend soin des uns et des autres. C'est quelque part un ministère de berger. C'est pour ça que, voilà, les anciens, il n'y a pas de difficulté à appeler un ancien un pasteur. Parce que voilà, on est dans ce vocabulaire-là de prendre soin. Et dans cette question pastorale, et on le voit, il y a l'idée de surveiller, de protéger. Et on le voit dans trois directions, et notamment dans Actes, c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce texte, ils sont appelés à être des bergers déjà pour eux-mêmes, pour l'Église, et face aux adversaires, face aux loups, face aux destructeurs de la communauté. Acte 20, hein, verset 28, « Faites donc bien attention à vous-même. » À vous-même, envers eux-mêmes. Chaque chrétien, on est appelé à prendre soin de soi en regardant si notre vie, elle est alignée sur Dieu. Mais un ancien devrait être quelqu'un qui se laisse interpeller par l'œuvre de Dieu. Donc Renaud nous avait encouragé à ce que des anciens soient redevables, peut-être les uns envers les autres. Jean Calvin dit cette citation, « Car un homme ne sera jamais attentif au salut des autres s'il n'est pas préoccupé du sien. En vain poussera-t-il les autres à vivre pieusement s'il ne manifeste aucun désir de piété. » En fait, un ancien devrait donner envie. On voit qu'il se laisse lui-même travailler par la parole de Dieu. Il veille, il soigne son propre cœur. Nous sommes appelés à être des bergers pour nous-mêmes, pour travailler nos cœurs. Enfin, bien sûr, envers l'Église, tout le troupeau, et je trouve la manière dont le texte nous dit, dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. C'est fort. Vous a établi évêque. Le troupeau, il est à Dieu. L'Église, elle est à Dieu. Et d'ailleurs, dans ce texte, on le voit peut-être pas très bien, mais que Christ a acquis par le sang de son Fils. Là, on en va fêter Pâques. Mais quand on imagine que l'Église locale, c'est des hommes et des femmes qui ont été rachetés par le sang de Christ. Quelle responsabilité d'en prendre soin. Nous sommes appelés à... Alors on pourrait dire, mais voilà, prendre soin des brebis, de ceux qui s'égarent, de ceux qui s'éloignent. Je le disais tout à l'heure, de ce que la brebis mange. Est-ce qu'elle a besoin de soins particuliers? A-t-elle une mauvaise conduite? Est-ce que cette brebis blesse-t-elle les autres? Est-ce qu'elle s'éloigne de Dieu? Alors on dit tout ça facilement, hein, dans le concret. C'est pas évident du tout de prendre soin des uns et des autres. On est dans un contexte assez post-moderne où voilà, la relation à Dieu c'est assez personnel. On n'aime pas que les gens s'immiscent dans nos vies. Voilà, c'est ma foi, c'est ma manière de vivre les choses. Et la parole de Dieu nous montre que en fait on est appelé à nous exhorter, à nous édifier, à nous encourager, à nous reprendre, etc. Et une des tâches principales, notamment aussi des responsables, c'est de reprendre, de redresser, d'accompagner, de soigner. C'est pas évident de soigner un mouton qui ne veut pas. Voilà, c'est le contexte aussi aujourd'hui. Donc c'est dit facilement, mais dans le concret de l'Église, c'est difficile. Et enfin, troisième élément, on est appelé à être des bergers envers ceux de l'extérieur. Il y a une protection. Les loups, hein. Je relis le verset 29. « Je sais qu'après mon départ, des loups cruels, c'est fort, hein, s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui se donneront des enseignements pervertis pour entraîner les autres à leur suite. » Waouh ! Je trouve que c'est dur d'entendre ça. Il y a des loups du dehors, ok. Donc le responsable est appelé à mettre en garde contre des faux enseignements extérieurs. Mais on voit aussi qu'il y a des loups au-dedans. Donc au-dedans de nous, il peut y avoir des personnes qui font du tort. Le loup peut être un faux frère qui blesse aussi le troupeau, qui s'ignore loup. C'est peut-être des faux enseignements. Il se lèvera au milieu de vous. Ouais, c'est fort. Donc quel discernement à avoir. Donc on voit le lien de la nécessité que les responsables soient attachés à la parole de Dieu, à la vérité. Et on a la même chose dans Paul avec Tite, hein, où il dit « Un ancien est là pour encourager, pour veiller sur l'assemblée, pour réfuter », c'est le mot qui est utilisé. Dans la lettre à Timothée, hein, c'est pareil, Paul, au verset 5, l'importance de prendre soin de l'Église de Dieu. Et enfin Pierre, au verset 2, « Prenez soin » dans le chapitre 5, hein, « Prenez soin du troupeau de Dieu », c'est l'aspect berger, hein, « qui est sous votre garde ». Non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Donc on voit qu'effectivement, il y a l'idée de protéger, il y a une protection, mais il y a l'idée aussi du soin, de fortifier, d'encourager. Et c'est vrai, des responsables sont appelés à avoir à cœur la vie des personnes. Ils veulent s'investir pour leur bien. Juste pas seulement là devant, mais dans le quotidien, en pouvant partager aussi les joies et les peines du quotidien. On est appelé à chercher à être des modèles. Et bien sûr, ce ministère de prendre soin des uns des autres, c'est pour ça que je rappelle, il est pas seulement celui des anciens, mais il est de tout à chacun de prendre soin des uns et des autres. Nous sommes tous appelés à prendre soin entre nous. Mais ce ministère est en particulier l'un des ministères des responsables de nos églises. Encore une citation. Les anciens conduisent les membres de l'église vers la maturité en Christ. Donc on voit vers où ils conduisent. Ils sont des pasteurs, donc ils prennent soin. Ils sont des bergers qui s'investissent dans la vie des membres pour les aider à grandir ensemble et à ressembler de plus en plus à Christ. Donc un responsable doit apprendre à connaître l'église, ça prend du temps, doit apprendre à connaître chacun des uns et des autres, prêt à donner sa vie pour elle, à passer du temps. Et enfin, un troisième élément dans ce rôle, bien sûr, qui rejoint aussi ce côté pastoral, c'est un ministère de direction. Un berger, un ancien, un responsable qui est attaché à la parole, qui veut être un berger, qui veut prendre soin, il va orienter, il va diriger, il va conduire l'Église. Dans la lettre de Tite, hein, chapitre 1, verset 7. Paul utilise le mot intendant. Intendant. C'est vraiment la personne qui est chargée de diriger une maison, d'en dresser les lignes. Un berger dirige le troupeau. Il y a vraiment, quand on voit les images, normalement, il n'est pas derrière, mais il est devant. C'était l'image qu'il y avait en intro tout à l'heure de Bienvenue. Ben voilà, c'est un berger qui est devant et le troupeau qui suit. L'église doit aller quelque part. Un berger marche devant et non derrière. Il dirige en parole. Il dirige par l'exemple. Sur le plan du caractère, des compétences, on l'avait vu aussi dimanche dernier. En soi, les qualités qui sont attendues que vous voyez dans ces textes ne sont pas, enfin, sont attendues de chacun d'entre nous, de chacun des disciples. Mais un responsable devrait être en fait le premier de cordée. Devrait être celui qui montre la direction. D'où l'objet aussi d'être attaché à la parole, de montrer qu'il pointe vers Christ et qu'il prend soin. Donc l'apôtre Pierre fait pareil, hein, Timothée, avec le soin. Donc c'est pas un leadership, c'est pas une direction qui écrase, qui domine, mais qui prend soin en montrant l'exemple et une direction à suivre. Et j'aime beaucoup, on a étudié il y a pas longtemps Marc. Vous vous rappelez l'enseignement de celui qui, les disciples étaient en train de se disputer pour savoir qui allait avoir la première place, et Jésus a montré l'exemple. Celui qui veut être grand doit être le quoi? Le serviteur. Donc en fait, cette notion de direction, elle doit être prise dans cette, voilà, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et ça, c'est un renversement extraordinaire. C'est que, oui, Dieu demande à des hommes de conduire l'Église. Et il demande à ces hommes d'avoir cette attitude de serviteur, d'esclave, de celui qui va laver les pieds. Jésus a montré l'exemple d'une humilité extraordinaire. Ils sont au service de l'Église pour le bien des uns et des autres. Souvenons-nous de cet exemple de Christ. C'est un renversement. C'est un renversement de la manière dont l'homme voit l'autorité. Un renversement dans la manière dont Dieu voit parfois, l'homme voit, ce qui doit être un responsable. Mais on voit que Dieu et Jésus-Christ en particulier a montré que celui qui sait diriger, c'est celui qui est au pied, dans une attitude d'humilité et de service. Alors en synthèse, on pourrait dire, je voulais pas lire cette citation, mais il veille sur la santé spirituelle de l'Église. Il veille sur la santé spirituelle de l'Église. Nous travaillons pour Jésus, le souverain berger. Et j'ai beaucoup aimé dimanche dernier où il a rappelé que le Seigneur aussi évaluera la manière dont les responsables d'église auront conduit le troupeau. Ils auront à rendre des comptes. C'est ouf. C'est à la fois pesant, hein, ça pourrait être pesant. D'où le besoin que l'église prie pour ses responsables, les soutienne dans la prière et dans le discernement. Vous avez peut-être vu sur vos feuilles, hein, qu'il y a un deuxième aspect, mais je vais juste l'évoquer. On a évoqué toute la pléthore des qualifications, des termes qui sont employés pour veiller, pour regarder les anciens, mais l'Église est amenée justement à regarder justement quand on regarde, on veut discerner un responsable d'Église, on est appelé à regarder sa foi. C'est logique. Si on veut que ce soit des hommes qui sont attachés à la parole, on est appelé à regarder sa famille, son service, son témoignage. Est-ce qu'il est consacré? Est-ce qu'il démontre de l'humilité? Est-ce qu'il est empreint de la grâce? Est-ce qu'il est cohérent avec ce qu'il prêche? Que nous dit sa famille? Que nous dit sa vie du quotidien? Quand on regarde les enfants, la manière dont ils se comportent, voilà, ça permet de discerner, et ces textes qu'on vient de lire, c'est de se dire comment un homme qui ne dirige pas sa maison peut diriger une église. Donc c'est vrai, en regardant une famille, on peut discerner aussi si c'est des hommes que Dieu appelle à son service. Moi j'aime beaucoup ce terme de l'hospitalité. Est-ce qu'ils sont prêts à ouvrir leur maison, leurs bras, et donner du temps? Son service, comment sert-il l'Église? Comment donne-t-il de son temps? Comment le gère-t-il? Est-ce qu'il est serviteur? Est-ce qu'il a cette humilité? Est-ce qu'il est prêt à relever les manches? Ou est-ce qu'à la moindre difficulté, il baisse les bras? Est-il enseignable? Est-ce qu'il est prêt à écouter? C'est ça, le service, cette humilité. Est-ce qu'il est prêt à reconsidérer sa position? Et enfin, il y a la question du témoignage, et à la fois du témoignage visible, hein, et toute la question, est-ce qu'il est colérique, arrogant, voilà. Mais je trouve que Paul aussi, il est fort en disant « Qu'en pensent les gens du dehors? Qu'en pensent les collègues de travail? Les employés qui sont peut-être sous la responsabilité de cet homme ?» Je ne sais plus avec qui je partageais, je dirais « On devrait pouvoir dire aux candidats qu'on veut choisir aux hommes, écoute, donne-moi un numéro de téléphone de soit ton patron ou quelqu'un qui travaille pour toi, et de dire, écoute, voilà, je suis X, je suis responsable, voilà, cet homme est appelé à prendre des responsabilités dans l'église locale, est-ce que tu le recommandes, est-ce que tu dis... Ben, en fait, c'est ça, hein, de se dire, est-ce que il y a un bon témoignage qui est donné? Ça va loin. Et justement, sinon, il y a le discrédit. Et le piège du diable, hein, c'est des termes très forts qui sont dans Timothée. Voilà un rapide tour de ce que l'Église est appelée à regarder. Mais j'aimerais nous rappeler aussi que le berger, le grand berger. Nous sommes que des sous-bergers. Et on est en route, comme chacun d'entre vous, en tant que responsable. On doit avoir une humilité, on doit être prêt à reconnaître qu'on a fait fausse route. La boussole, notre boussole, c'est regarder ensemble à Christ. Jésus incarne ultimement toutes ces choses-là parfaitement. En tant qu'humain, on n'y sera jamais, mais c'est vers là qu'on doit tendre. C'est à lui qu'on va rendre compte. Il en est le propriétaire de notre église locale. C'est lui qui nous a rachetés. Est-ce qu'on s'aime les uns les autres comme lui nous aime, hein? C'est ça, l'amour qu'on a les autres, c'est aussi, voilà. C'est l'amour de Christ qui doit alimenter notre amour les uns envers les autres. Et c'est pour cela que dans votre texte, et je voudrais encore juste une citation avant de lire et terminer par ce texte, l'Église, voilà, c'est ça, est une communauté de serviteurs de tous envers tous, encadrée par une équipe de responsables au ministère complémentaire, qui sont des modèles pour tous, mais en vue d'atteindre une stature parfaite de Christ. On ne l'a pas encore atteint, mais c'est l'objectif. Et sur vos feuilles, pour ceux qui l'ont, hein, j'ai mis un extrait d'Ézéchiel 34, qui m'a interpellé ces derniers temps avec Matthieu, on l'a partagé. Et ce texte répond à ce Jean 10 que Matthieu a introduit. Le début de ce chapitre, Dieu, il est en train de condamner des mauvais bergers. Des mauvais bergers, c'est les premiers versets, jusqu'au verset 10. Je les ai pas cités. Et il dit, mais il va y avoir un berger qui va venir, qui va vraiment bien prendre soin. Et donc là, c'est un texte prophétique sur Christ. Et je trouve que c'est ce que j'aimerais simplement relever quand on réfléchit à la question du responsable, de celui qui conduit. Ben voilà l'ultime berger. Et je trouve que c'est merveilleux. Malgré les défaillances des sous-bergers que Dieu a qualifiés, voilà la manière dont Dieu voilà, prends soin de nous. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis. Je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau, quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Et parfois, il y a des brebis qui se sont égarées. Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau et dans les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prends soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je prends soin d'elles avec équité. Très beau texte qui nous rappelle que, ultimement, notre berger, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on va célébrer là dans les jours à venir avec la Pâque. Amen.